VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Billon.
Bonjour à tous, il est 17h à RDC. Quatre activistes des droits de l'homme, dont trois de l'organisation sénégalaise Yanama et un de l'organisation burkinabé Balai Citoyen, sont accusés d'avoir voulu attenter à la sécurité intérieure en République démocratique du Congo. Ils ont été donc arrêtés hier dimanche à Kinshasa en compagnie d'un diplomate américain au cours d'une réunion avec leurs collègues congolais défenseurs des droits de l'homme. On écoute là-dessus le porte-parole du gouvernement congolais, Lambert Mende.
Ils ont été interpellés hier dimanche au cours d'une réunion politique qu'ils tenaient en banlieue de Kinshasa devant un diplomate américain qui a été lui aussi interpellé, bien qu'on l'a remis à l'ambassade américaine tard. Dans la soirée, on les accuse d'avoir voulu attenter à la sécurité intérieure de notre pays par une série de messages d'apologie à la violence et ensuite des projets de formation de brigades de résistance dans lesquels on apprendrait aux gens, par exemple, à fabriquer des molotov ou des choses comme ça. Et surtout, ils n'ont pas caché leur intention d'aider certains groupes congolais à changer de régime politique en place avant les échéances électorales constitutionnelles. C'est pour cela qu'ils sont en train d'être entendus par la police judiciaire.
Lambert Mende, le porte-parole du gouvernement congolais, dont les propos ont été recueillis par Eddy Isango. République centrafricaine, l'Union européenne a officialisé aujourd'hui l'envoi de formateurs pour les forces armées centrafricaines à Bangui après la fin de sa mission militaire EUFOR RCA. Les formateurs de la nouvelle mission, selon le communiqué de l'Union européenne obtenu par l'AFP, vont assister l'état-major centrafricain sur la gestion et la réforme de l'armée. Les formateurs au nombre de 60 sont basés à Bangui et leur commandement sera assuré par le général français Dominique Logel pour une durée initiale d'un an. Quant à l'armée française, elle a commencé son repli de la République centrafricaine, réduisant dans un premier temps ses effectifs de 2000 à 1700 soldats, en passant là aussi le relais à la MINUSCA. Selon les médias, les magistrats centrafricains auraient décidé de poursuivre leur mouvement de grève au terme d'une assemblée générale extraordinaire. Ce lundi, ils ont demandé des précisions sur le délai de versement de leur indemnité de responsabilité, signale le réseau des journalistes pour les droits de l'homme. En temps, la grève est maintenue. Samedi, les chefs des cours et tribunaux avaient lancé un appel à la reprise des activités judiciaires. Et la grève générale des fonctionnaires gabonais a été reconduite aujourd'hui. Ainsi en a décidé la coalition syndicale Dynamique Unitaire lors d'une assemblée générale ce matin à Libreville. À l'appel d'une vingtaine de syndicats de la fonction publique, notamment de l'éducation nationale et de la santé, les fonctionnaires gabonais sont entrés en grève début février pour réclamer des revalorisations salariales. 17h03 à Libreville au Gabon.
VOA Afrique en direct de Washington.
Le Nigeria se dit prêt pour des élections présidentielles et législatives libres et pacifiques le 28 mars, c'est du moins ce qu'affirme ce lundi le chef de la commission électorale qui avait reporté les scrutins pour des raisons de sécurité. La commission électorale avait reporté ces élections initialement prévues le 14 février pour des raisons de sécurité, les autorités nigériennes affirmant que les forces de l'ordre mobilisées contre Boko Haram ne pourraient pas assurer la bonne tenue du scrutin. Le président Goodluck Jonathan est candidat à sa réélection pour un second mandat. Son principal adversaire est l'ancien général Mohamed Bouhari. Et selon l'agence Reuters, les rebelles Touareg du nord du Mali ont rejeté l'accord de paix préliminaire proposé le 1er mars. C'était à Alger, Camille Gros-Didier.
Après consultation de leur base, les rebelles Touareg auraient estimé que ce texte ne s'attaque pas aux racines du conflit et ils proposent de poursuivre les pourparlers. Dans un communiqué diffusé dimanche, la coordination des mouvements de l'Azawad dit espérer pouvoir à terme trouver un document acceptable et réaliste avec le gouvernement de Bamako. Le 1er mars, sous la médiation de l'ONU, le gouvernement malien a signé dans la capitale algérienne cet accord préliminaire censé mettre fin aux insurrections dans le nord du Mali. Mais les rebelles avaient réclamé davantage de temps pour procéder à des consultations. Deux ans après l'intervention française au Mali, l'instabilité persiste dans la région. À noter que la France, toujours selon Reuters, aurait appelé l'Azawad à paraffer l'accord de paix du 1er mars en l'état, au motif que les négociations d'Alger sont achevées et que l'accord de paix offre un cadre global et équilibré pour la paix au Mali.
En Côte d'Ivoire, l'accusation et la défense de Simone Gbagbo se sont pourvues en cassation contre la condamnation à 20 ans de prison de l'ex-première dame pour attentat à la sûreté de l'État durant la crise post-électorale de 2010-2011. C'est ce que rapporte l'AFP ce lundi, citant des sources judiciaires, Jacques Aristide.
Le parquet a introduit un pourvoi en cassation au regard de la loi, a révélé l'avocat général Simon Yabo Yodi, sans préciser les motivations de ce pourvoi. Pour sa part, Habiba Touré, une avocate de Madame Gbagbo, a déclaré que l'équipe de défense s'était pourvue en cassation, ajoutant que la procédure était irrégulière et devait être frappée de nullité. La procédure d'appel d'une décision prise en cour d'assises n'existe pas dans le droit ivoirien. Il est possible en revanche de se pourvoir en cassation. La cour de cassation examinera alors la justesse d'un verdict au regard du droit et non sur le fond. Simone Gbagbo a été condamnée le 10 mars dernier à 20 ans de réclusion pour attentat à la sûreté de l'État. Un verdict lourd car il doublait les réquisitions du parquet général, soit 10 ans de prison. Elle était jugée avec 78 co-accusés pour leur rôle dans la crise causée par le refus de l'ex-président Laurent Gbagbo de reconnaître la victoire d'Alassane Ouattara à la présidentielle de novembre 2010. Les violences qui ont marqué la crise post-électorale ont fait plus de 3000 morts en 5 ans.
16h06 à Abidjan.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
L'actualité à l'étranger, le secrétaire d'État américain John Kerry s'est entretenu de nouveau aujourd'hui à Lausanne, en Suisse, avec son homologue iranien Javad Zarif. Les deux hommes mettent les bouchées doubles pour une percée avant la fin du mois dans les négociations sur le nucléaire iranien qui dure depuis 18 mois. Michel Joseph.
Messieurs Kerry et Zarif se sont joints à leurs diplomates et experts qui ont ouvert le dernier round pour parler dimanche. Ils ont deux semaines pour arriver à un accord cadre avant l'expiration du dernier délai qu'ils se sont donné. Il s'agit de sceller un règlement qui garantirait que l'Iran ne possédera jamais d'armes nucléaires en échange de la levée des sanctions économiques contre Téhéran. En d'autres termes, il est question de fixer les grands chapitres pour garantir le caractère pacifique des activités nucléaires iraniennes et d'établir aussi le principe du contrôle des infrastructures de Téhéran, la durée de l'accord et le calendrier d'une levée progressive des sanctions, soulignent les analystes. Selon le chef de la diplomatie américaine, les derniers obstacles à un tel accord sont essentiellement politiques plutôt que techniques. Et son homologue Zarif a exprimé dimanche l'espoir de parvenir à des solutions durant les prochains jours. L'Iran soutient que son programme nucléaire est purement à des fins pacifiques.
Plus de 5 millions de personnes ont besoin de soins en Irak. C'est ce qu'a affirmé aujourd'hui l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Le pays est en pleine tourmente depuis l'offensive en juin dernier du groupe djihadiste État islamique. L'OMS tire la sonnette d'alarme en soulignant que seul 30,4% de l'argent requis pour les services de santé a été reçu. Selon l'OMS, il manque 218,7 millions de dollars pour plus de 5 millions de personnes en Irak pour que ces personnes aient accès aux services de santé dont ils ont besoin. Au Pakistan, suite aux attaques talibanes d'hier, une seconde journée de manifestations violentes a eu lieu à Lahore, deuxième ville la plus peuplée du Pakistan. Un double attentat suicide des talibans contre deux églises a fait 17 morts et des dizaines de blessés dimanche et a déclenché une vague de rares violences chez les chrétiens de Lahore qui ont lynché deux hommes soupçonnés d'être liés aux kamikazes saccagés des voitures et des arrêts d'autobus. Officiellement, le printemps arrive ce vendredi dans l'hémisphère nord et ici aux États-Unis. Les habitants de Boston cachent mal leur impatience. Il faut dire qu'ils émergent tout juste d'une nouvelle tempête qui a encore déversé plus de 7 cm de neige sur ce port de la côte nord-est des États-Unis. En tout, plus de 2,7 mètres de neige sont tombés sur Boston depuis novembre 2014. plus du double de la moyenne et un nouveau record pour la métropole. Mais il n'y aura pas de défilé en l'honneur de ce record, a dit le maire de Boston, Marty Walsh, en plaisantant. De toute façon, la neige entrave toujours les déplacements, a-t-il déploré. Et puis, de surcroît, si le décembre a été relativement clément, les blizzards se sont succédés à un rythme effréné du 25 janvier au 17 mars, faisant de février le mois où Boston aura reçu le plus de neige, bien au-delà du record établi durant l'hiver 1995-1996. Jean-Roger Bion à ce micro. Prochain rendez-vous de l'information dans moins d'une heure.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.